commencer notre petite discussion et vous faire un petit topo d'abord. Alors, je ne vous apporte pas le soleil de la Réunion puisque vous en avez. En revanche, je vous transmets le bonjour à des camarades qui militent avec moi sur ce caillou qui dans l'océan Indien. Ouais. Alors, la Réunion et surtout Mayotte ont été marquées par le passage de cyclones dévastateurs. Sido, Garance, ces deux noms resteront pour longtemps dans la mémoire des Maorés et des Réunionnais. Pour les ravages occasionnés par les pluies et les vents sur l'habitat, l'agriculture, les communications et l'accès à l'eau. Mais ce qu'on n'est pas prêt d'oublier non plus, c'est l'incurie de l'État. Incurie dont les effets aussi dévastateurs, sinon plus que ceux des cyclones. Mayotte manque de tout, depuis toujours. Manque d'eau potable et non potable. Manque de logements décents. Manque de transports publics. Manque d'infrastructures scolaires et sanitaires. Avant les cyclones, Mayotte faisait la une de l'actualité comme étant le plus grand bidonville de France. L'avant-poste de la submersion migratoire pour les réactionnaires de tout poil. Utiliser les migrants, les étrangers, pour cacher sa propre défiance est une constante chez les irresponsables qui gouvernent. Le mépris colonial dégouline dans tous les discours, promesses, apparitions ministérielles, etc. C'est ainsi qu'on a pu voir Macron, face aux habitants excédés par le manque d'aide après Chido, fâché sans retenue devant les télés. Alors je le cite, si ce n'était pas la France, vous seriez mille fois plus dans la merde. À chaque opération bulldozer et destruction d'habitat, c'est la vie de familles en précarité qui était écrasée pour que des brochettes d'ambitieux civils et galonnés se pavanent dans les médias, concourant dans la course à l'échalote avec l'extrême droite. Car le thermomètre électoral de l'incurie gouvernementale a affiché la température. À Mayotte, aux dernières élections législatives, les deux députés élus en juin dernier étaient l'une d'extrême droite, donc le RN, et l'autre de la droite extrême, l'IOT. À La Réunion, pour la première fois, le RN a eu un député. C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu les diverses manifestations xénophobes. À Mayotte, ce sont des collectifs contre les Comoriens qui bloquent l'accès à des dispensaires et au service des étrangers de la préfecture, empêchant ainsi les travailleurs immigrés de récupérer leur titre de séjour et les laissant à la merci de la police aux frontières. À La Réunion, c'est une réaction anti-mahoraise qui se diffuse dans la société à l'occasion de faits de délinquance dans les quartiers populaires et une manifestation s'est tenue sur ce thème en janvier. Cette dérive poisseuse menace le monde du travail. Elle est en relation directe avec l'abandon de la lutte de classe, sa trahison par les organisations politiques et syndicales. Alors, je vais faire un petit peu de géographie et d'histoire. Les trois départements les plus pauvres de France sont en premier Mayotte, en troisième La Réunion, et entre les deux, il y a la Guyane. À La Réunion et Mayotte, Mayotte qui se situe dans l'archipel des Comores, nous sommes dans l'océan Indien, de part et d'autre de Madagascar. Ces îles lointaines sont souvent affublées de qualificatifs de cartes postales. La Réunion, l'île arc-en-ciel en référence à son métissage. Mayotte, l'île au parfum, étiquette qui ne dit rien que l'exploitation éhontée des travailleurs clandestins sur les plantations de fleurs, l'ylang-ylang surtout, entrant dans la composition de parfums de luxe. Le propriétaire Guerlain du groupe LVMH, épinglé par l'inspection du travail, s'est délocalisé dans les îles voisines des Comores, où il peut faire travailler les cueilleuses et les ouvriers pour les salaires dérisoires. Sous le joug du même impérialisme, l'histoire de ces deux îles et de leur population travailleuse a suivi les chemins différents. Mais la division, le particularisme cultivé par les élites locales est le terreau sur lequel prospère le racisme et la xénophobie, poison mortel pour la classe ouvrière. Alors, au contraire, pour mener le combat contre l'exploitation capitaliste et le pouvoir de la bourgeoisie, la classe ouvrière doit organiser ses forces, quelle que soit sa couleur, sa nationalité, ou avec ou sans papier. Alors, La Réunion et des clients touristiques sur La Réunion mettent en avant le métissage harmonieux de la population qui serait unique au monde, ce que le personnel politique appelle le vivre ensemble réunionnais. S'il y a là une part de vérité, il y a surtout beaucoup de mensonges, comme toujours quand on choisit d'ignorer l'affrontement des classes sociales. La Réunion était une île inhabitée. Elle a commencé à être peuplée par des colons français au milieu du XVIIe siècle. Les colons venaient pour certains avec des épouses malgaches ou indo-portugaises, ce qui fait que les premiers enfants nés à la Réunion étaient métis. Au début du XVIIIe siècle, pour exploiter le café, une culture qui rapportait beaucoup à l'exportation, les colons ont fait venir un nombre considérable d'esclaves arrachés principalement à Madagascar, à l'Afrique orientale, à l'Inde, à la Malaisie. À la fin du XVIIIe siècle, les esclaves constituaient les trois quarts de la population. Autant dire que la peur qu'inspirent aux bourgeois les classes laborieuses était très grande. Les rébellions constituaient une perte sèche pour les propriétaires, surtout quand les esclaves s'évadaient et représentaient une contestation insupportable de l'ordre social pour les dirigeants. Les travailleurs en lutte contre l'asservissement étaient punis de façon odieuse et spectaculaire, globalement assimilés à des délinquants à la lie de la société. Le noir, en tant que potentiel révolté, devait faire peur. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les propriétaires des champs de canne à sucre sont allés chercher au sud de l'Inde d'autres travailleurs à exploiter les engagés du sucre. Nombre d'entre eux sont restés sur l'île après leur période d'engagement comme travailleurs des champs, artisans ou commerçants. Après l'esclavage, l'exploitation exacerbée, les rébellions et les chasseurs de noirs, le racisme a été à son paroxysme sur une longue période. S'il disparaîtra peu à peu sous sa forme la plus brutale après la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans le contexte international particulier des années 50-60, lutte anticolonialiste, indépendance en Afrique et indépendance de Madagascar en 1960. La France, qui voulait maintenir sa place sur l'échiquier économique et politique international, transforma la Réunion en centre à partir duquel exerçait son influence sur cette partie du monde. Ce qui explique les transferts financiers et les institutions administratives, juridiques et politiques calquées sur la métropole et plaquées sur une économie de plantation archaïque associant domaines fonciers et usines sucrières qui finirent d'ailleurs par disparaître en très peu de temps, en même temps que les petites boutiques et les petits artisans. Aujourd'hui, les petites entreprises de commerce et du bâtiment ont pratiquement toutes disparu ou ont été absorbées par les grands groupes comme Ayotte, Colas, Bouygues, Vinci, etc. On peut dire que le relatif développement économique conjugué à la généralisation de l'éducation a été le facteur le plus puissant pour gommer au moins partiellement les préjugés raciaux. De fait, les travailleurs n'étaient plus obligatoirement assignés à tel ou tel secteur d'activité, et les jeunes se mélangeaient dans le système scolaire. Ainsi est né le sentiment d'appartenir à une même classe défavorisée, quelle que soit son origine ethnique, sentiment qui s'est accru avec la prolétarisation des petits colons, l'augmentation de la précarité et du chômage, tandis qu'augmentait le nombre des fonctionnaires qu'on faisait venir de métropole avec la prime chaleur, et que se constituait une importante couche sociale très défavorisée. Ce qui a fini par faire naître un sentiment anti-oreille, anti-blanc, hein, si on veut résumer, qui s'est traduit dans les manifestations par créole d'abord, nous l'est pas plus, nous l'est pas moins, slogan longtemps mis en avant par le PCR, enfin, le Parti communiste réunionnais, et la CGTR. Cette forme de nationalisme est une réponse réformiste à la question des inégalités, au sentiment d'injustice grandissant quand les quelques postes disponibles sont occupés par des gens venus de métropole. Ce n'est pas tout à fait du racisme, mais c'est une forme de revendication d'égalité des droits qui divise le monde du travail et introduit de la confusion. Car en fait, il ne remet pas en cause le système d'exploitation capitaliste tout en semblant s'attaquer à l'oppression coloniale. Or, il n'est pas possible de combattre sérieusement les inégalités de fait et de droit sans dénoncer tout à la fois l'exploitation capitaliste et l'oppression coloniale. Avec la crise du système capitaliste ouverte depuis plusieurs décennies, la masse de chômeurs ne se résorbe pas. Au premier trimestre de 2023, 153 790 personnes sur 873 000 habitants que compte La Réunion étaient inscrits à Pôle emploi, mais maintenant on dit France Travail, soit 18% de la population. Plus d'un quart des jeunes de 15 à 29 ans sont sans emploi, sans études, sans rien. La dégradation constante des conditions de vie, de travail et d'habitat constitue le lot quotidien des classes populaires. La vie chère, les inégalités sociales, le chômage massif, la pénurie d'emplois et de logements constituent ainsi un terreau favorable à l'éclosion des préjugés anti-pauvres, anti-étrangers, plutôt qu'au vivre ensemble. D'ailleurs, ce slogan brandi par la classe politique essentiellement de gauche masque volontairement l'énorme décalage entre la bourgeoisie et les classes des travailleurs les plus démunis. Le vivre ensemble, ou bien encore le patriotisme réunionnais, c'est un verbiage qui sert d'étendard pour justifier tous les cadeaux au patron pays censé relancer l'économie et créer des emplois. Il est plus que temps que les travailleurs se débarrassent de ces illusions mortelles et s'organisent collectivement pour défendre leurs intérêts de classe. Alors, pour revenir à Mayotte, donc en 1975, lors de l'indépendance des Comores, l'une de ses dernières colonies, l'impérialisme français, a fait le choix de conserver Mayotte, l'une des quatre îles de l'archipel, contre l'avis de l'ONU et du soi-disant droit international. Là encore, un petit rappel. En 1946, les quatre vieilles colonies, comme on l'appelait Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ont accédé à un statut de département. Alors, une petite élite mahoraise avait revendiqué la même chose pour le territoire de Mayotte, mais a dû attendre 75 ans, soit en 2011, pour y parvenir. Et encore en 2009, la ministre de l'Intérieur, Alliot-Marie, trouvait très bien le statut de Mayotte, simple territoire d'outre-mer, sans droit ni égalité avec la métropole, et se disait opposée à tout changement, car, je cite, « passer à un système de prestations ou de salaire équivalent à celui de la France serait irresponsable. Tout le système économique et social éclaterait, sans parler de l'immigration qui s'en suivrait. » Deux ans après, en 2011, son copain Sarkozy décrète donc Mayotte 101e département français, après avoir laissé si longtemps cette colonie végéter dans un état sous développement abyssal. Entre parenthèses, on voit ici que le personnel politique au service de la bourgeoisie, il peut y avoir des intérêts qui s'opposent à la lucidité ou vice-versa. C'est qu'à un moment donné, chez ces gens-là, le rapport de force et les enjeux électoraux peuvent déboucher sur des décisions qui défient tout raisonnement. Ben, il faut le savoir. Les bourgeois ont leur méthode à eux pour tenter de garantir leur pouvoir et ils ont les hommes politiques prêts à se mettre à plat ventre pour les y aider. 20 ans après avoir détaché Mayotte des Comores indépendantes, en 1995, Balladur, premier ministre de Mitterrand, avait instauré un visa obligatoire pour les Comoriens qui circulent entre ces îles depuis des siècles. Cette nouvelle frontière et la chasse à ces nouveaux clandestins malgré eux se traduira par des milliers de morts, faisant des 70 km qui séparent l'île d'Anjouan de Mayotte un cimetière marin qu'on dit le plus grand du monde. On disait que les Mahorais ne voulaient pas manger le poisson qui avait été pêché de crainte de manger des parents. Alors l'État a transformé donc les Comoriens en clandestins et a investi dans toujours en plus de répression contre les étrangers. Cela coûte moins cher que de construire suffisamment d'écoles, de logements, de conduites d'eau, et cela permet de creuser le fossé entre Français et étrangers. La gauche n'est pas en reste dans l'ignominie. En 2014, sous Hollande, cette fois, et Valls, Premier ministre, une nouvelle mesure répressive a été instaurée, c'est l'infâme titre de séjour territorialisé. Alors, les migrants qui obtiennent un titre de séjour de l'État français à Mayotte, ne peuvent pas accéder au reste de la France, ils restent enfermés à Mayotte. Et pour continuer dans la fabrication d'étrangers et dans la compétition avec l'extrême droite, la loi votée le 8 avril dernier modifie les conditions d'accès à la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte de parents étrangers. Elle restreint le droit du sol pour ces enfants en exigeant à leur naissance de leurs deux parents une ancienneté de séjour régulier d'un an minimum en France contre un seul de ses parents et pendant une période de 3 mois dans l'ancienne version de 2018. Alors la politique nationale a ses relais dans les politiciens locaux qui ont fait depuis longtemps de la politique anti-immigrée leur fond de commerce. Un collectif de citoyens de Mayotte, dont j'ai parlé plus haut, a publié un communiqué le 28 décembre traitant les habitants de Bidonville, de Charonia, et exigeait la priorité des aides et des actions doit être données aux citoyens français à Mayotte, qui sont les grands oubliés de l'action publique de l'État français. À La Réunion, le collectif qui a manifesté le 25 janvier contre la délinquance importée de Mayotte traitait, lui, les Mahorais de rats d'égout hein, qui bénéficient des aides sociales et prennent le logement des Réunionnais. Même si cette escalade ignoble dans les propos n'a le fait que de minorités, il faut que la conscience des intérêts communs et la lutte collective éradiquent ce début d'infection avant qu'il ne se propage et finisse par creuser un fossé infranchissable au sein de la classe ouvrière. Alors, dans ce contexte, la situation des classes populaires est éminemment très difficile. Les signes de la montée du racisme et de la xénophobie se font plus nombreux dans les situations économiques et sociales pourrissantes, dont les travailleurs savent pourtant par tous les fibres de leur vie d'exploité que les responsables sont les patrons, les gros actionnaires, les banquiers et l'État à leur service, et pas d'autres travailleurs encore moins exploités. Alors justement, les travailleurs, ils se battent aussi, hein, mais alors les travailleurs de La Réunion subissent depuis des années un quasi-blocage de tous les salaires supérieurs au SMIC, alors que les prix, eux, ont explosé. En un an, plus de 1000 entreprises ont été placées en liquidation ou en redressement judiciaire, 673 un an avant. Ce qui signifie que des milliers de travailleurs perdent leur emploi ou craignent de le perdre. Beaucoup sont des travailleurs d'ailleurs en emploi précaire. À Mayotte, les patrons se gavent en payant des salaires de misère et en mettant en concurrence des travailleurs dont les papiers dépendent d'un contrat de travail et des travailleurs mahorais dans la grande distribution, le bâtiment et les services. Et le SMIC et les minima sociaux ne seront pas alignés sur ceux de la métropole avant au mieux 2031. Les travailleurs se mettent en lutte pour les salaires, les conditions de travail, contre le mépris colonial aussi. Mais à La Réunion comme à Mayotte, la peur d'un glissement vers plus de pauvreté alimente des préjugés racistes visant essentiellement les populations les plus démunies. Alors ce sentiment-là, bon, c'est à plusieurs niveaux. Hein. Par exemple, je parlais de l'habitat. Hein. À des degrés divers, la crise du logement et de l'habitat insalubre affecte en permanence une grande partie de la population. Après les cyclones, une des urgences est de se mettre au sec, de retrouver un toit. À Mayotte, on a vu des cabanes à terre et les rodomontades des ministres et du préfet disant qu'ils ne laisseraient pas reconstruire de tels habitats et que d'ailleurs, ils allaient intensifier la politique d'expulsion des Comoriens qui en seraient illégalement les constructeurs et habitants. Ce qui est en grande partie faux. À Mayotte, la population est estimée à 320 000 personnes et près de la moitié de l'habitat sous tôle, ce sont des bidonvilles appelés les bangas, hein, dans lesquels se logent tant les Comoriens que les travailleurs sans papier, que des Mahorais et des travailleurs pauvres. À chaque fois que l'État sort ses bulldozers et ses gendarmes et médiatise largement ses opérations de destruction de l'habitat insalubre, ce n'est pas pour montrer quel habitat décent il y a à proposer aux expulsés ou pour leur relogement. Non, il ne s'agit que de faire un amalgame entre habitat insalubre, insécurité et immigration clandestine. Ainsi, le 13 mai dernier, Manuel Valls, bien obligé de reconnaître devant une commission parlementaire le sous-développement des infrastructures économiques et des services publics. On jette la responsabilité sur les deux fléaux, comme il dit, l'habitat illégal et l'immigration clandestine. Alors, devant un tel déni de responsabilité de l'État, on n'a pas plus de mots pour qualifier Valls de valet des bourgeois. En miroir, il y a aussi la situation à La Réunion, un manque criant de logements dits sociaux. Selon le DAL, 49 000 familles sont en attente de logement social, soit près de 15% des ménages. Il faudrait construire 5 000 nouveaux logements par an et ils n'ont construit à peine que 1 700 en 2024. L'État est défaillant, mais pour des raisons électoralistes, c'est aux familles pauvres que s'attaquent les maires, tels que celui de Saint-Benoît, qui demandent l'aide à la CAF pour débusquer les familles qui suroccupent des logements sociaux, comprenez les familles pleines d'enfants, avec plein d'enfants sans parents. Alors, les familles mahoraises et comoriennes sont ainsi désignées à la vindicte populaire comme usurpatrices de logements, devant revenir aux Réunionnais, hébergeant de surcroît des délinquants pourrissant la vie des quartiers et menaçant ce fameux vivre ensemble. C'est sans aucun scrupule que les responsables politiques de tous bords jettent de l'huile sur le feu qui couvre au sein d'une population qui s'appauvrit et se désespère. Alors, au niveau de la scolarité, bien, c'est la mano. Hein. Avant même le passage de Chido, entre 5300 et 9500 enfants n'étaient pas scolarisés à Mayotte. Les cours du primaire se faisaient par rotation, par manque de classe. En 2022, le recteur lui-même comptait pour stopper les rotations, il faudrait 800 à 900 salles de classe supplémentaires. Pour répondre à cette incurie de l'État, la députée Youssoufa, de droite extrême, réclamait à Macron de mettre fin à la scolarisation obligatoire des enfants étrangers présents à Mayotte. Le cyclone n'a fait qu'aggraver des choses avec des locaux qui tardent à être reconstruits après avoir servi dans l'urgence à héberger des sans-toits. C'est dans cette situation qu'à leur grande surprise, des parents d'élèves ayant rejoint la Réunion pour y faire effectuer la rentrée de janvier à leurs enfants, se sont heurtés au refus de certaines communes réunionnaises d'inscrire les élèves maorés dans leur établissement. Alors, pour parler de l'eau, on en a beaucoup aussi parlé, hein, le représentant des pouvoirs publics, les ministres qui défilent, ne tarissent pas de promesses, mais le manque d'eau est toujours une réalité obsédante pour les maorés, comme avant, comme après Chido. Rotation, tour d'eau, coupure, stockage, aller au bord de fontaine ou rampe de distribution avec seaux et bassines, bienvenue au 19e siècle. Hein. Or, selon cela fait des années qu'il est question de compléter les deux retenues collinaires par une troisième, de réparer les fuites qui provoquent une déperdition d'un tiers de l'eau consommée. Mais rien n'est fait. Hein. À l'instar de toutes les autres infrastructures, écoles, hôpitaux, logements et routes nécessaires à la population, l'adduction en eau potable est le cadet des soucis des gouvernements qui passent. Leur seule véritable préoccupation est de satisfaire les exigences du capitalisme de Mayotte, comme la SMAE, la Société Mahoraise des Eaux, c'est une filiale du groupe Vinci, pour qui le robinet Afrique du gouvernement n'est jamais à sec. À La Réunion, depuis le mois de décembre, plusieurs communes de l'Est du territoire sont privées d'eau plusieurs heures par jour. Là aussi, les fuites sur des réseaux vieillissants et mal entretenus sont évaluées à 37%. Et l'eau délivrée au robinet est bien souvent impropre à la consommation. Alors la CISE, filiale du groupe SOR, qui a la facturation complexe au plus fort, vient d'être condamnée suite à un procès intenté par UFC Que Choisir à indemniser 98 000 consommateurs des communes de l'Est à raison de 50 centimes d'euros par jour pour la période 2026-2012. Nombre d'entre eux sont tombés gravement malades à force d'ingurgiter ce breuvage infect. Alors, concernant les prix, là aussi, la plus grande partie des produits sont importés majoritairement d'ici, hein, de l'Hexagone. Les capitalistes comme CMA-CGM ou le groupe GBH, le groupe Ayotte, monopolisent l'import-export. Le groupe Bernard Ayotte domine la grande distribution dans les Outre-mer avec les marques comme Carrefour, Renault, Monsieur Bricolage, Danone, Kia, Decathlon et bien d'autres. Son conseil d'administration mondial, son chiffre d'affaires mondial, pardon, était près de 5 milliards en 2023, dont les 2 milliards réalisés à La Réunion. Ces groupes se réservent des marges exorbitantes et impose des prix supérieurs à la métropole, ce qui provoque régulièrement des mouvements contre la vie chère de la vie, en particulier aux Antilles. Devant cette colère récurrente, qui de plus dénonce des aides de l'État, dont ces pauvres commerçants bénéficient dans des proportions scandaleuses, le Sénat a décidé de les auditionner. Alors pour l'instant, le réveil des sénateurs n'a pas fait baisser les prix et les capitalistes continuent de se remplir les poches sur le dos de leurs salariés et de la population, tout en étant de véritables assistés de l'État. Alors la question des salaires du pouvoir d'achat reste la principale revendication quand les travailleurs entrent en lutte à La Réunion et à Mayotte. À La Réunion, nombreux sont les travailleurs dont les salaires plafonnent au SMIC depuis des années. Rongés par la vie chère, ils ne le permettent plus de joindre les deux bouts. Rien d'étonnant donc, parce que la plupart des grèves qui ont eu lieu depuis un an dans les divers secteurs portent sur l'augmentation des salaires et le versement des primes de résultats de plusieurs milliers d'euros. Ce qui s'est passé successivement dans le transport, bon, ben, une entreprise qui s'appelle la STOI, alors, il y a 8 jours de grève, à Décra, donc 10 jours de grève, dans le secteur de la production électrique, chez Albioma, qui est aussi présente aux Antilles, dans une entreprise privée, et à EDF, là aussi 8 jours de grève, dans les cliniques privées du groupe Flamboyant, 9 jours de grève, et plus récemment dans le BTP, à l'entreprise Trom, où les ouvriers réunionnais, malgaches, mauriciens et comoriens ont opposé un front unis à leur patron, avec des résultats variant de rien à plusieurs centaines d'euros mensuels. Ces mobilisations successives montrent que le pouvoir d'achat fait partie des revendications vitales et immédiates de la classe ouvrière réunionnaise, mais qu'il faudra bien d'autres choses que des luttes éparpillées pour satisfaire, pour faire céder la bourgeoisie. En clair, il faut une bonne grève générale pour remettre les pendules à l'heure. Alors, à Mayotte aussi, il y a eu des luttes des travailleurs donc, pour obtenir la prime FIDO promise par les ministres de passage. Il a fallu faire grève ou menacer de faire grève dans la santé, dans l'éducation, chez la Société immobilière de Mayotte, donc la CIM, chez les employés des barges, le BTP, comme le TPC. À Colas, il y a eu trois mois de grève. Les travailleurs d'EDM, donc de l'électricité de Mayotte, pour être alignés sur les mêmes salaires et droits que ceux d'EDF. Bon, c'est les sapeurs-pompiers aussi, où il y a plus de SIDO et les heures supplémentaires non payées. Dans ces luttes, les travailleurs se retrouvent souvent à combattre coude à coude l'exploitation doublée du mépris colonial. La grève des travailleurs de Colas en est un exemple. Donc, à Mayotte, l'essentiel des marchés des travaux publics est réparti entre Colas et Vinci. Ces deux groupes s'entendent pour se partager les marchés sous l'œil bienveillant des autorités. C'est leur loi qu'ils imposent. La grande majorité des travailleurs perçoit les salaires précaires basés sur des contrats de chantier indexés sur une convention locale. Ce qui est un scandale 14 ans après la départementalisation. De plus, la majorité des travailleurs d'origine comorienne voient leur présence sur le territoire conditionnée à leur contrat de travail. Autant dire que pour eux, faire grève, c'est s'exposer au licenciement et à l'expulsion. Cet ignoble chantage fait aussi partie des méthodes de l'exploitation capitaliste. Et puis, il y a l'encadrement métropolitain, rémunéré selon les grilles salariales hexagonales, bien plus avantageuses qu'il faut subir même quand il est moins compétent qu'un Mahorais. C'est dans ces conditions que la grève pour la prime FIDO de 3 000 euros, une augmentation générale de salaire de 9 %, une prime de transport de 300 euros et l'alignement des droits sociaux sur ceux de la métropole a duré 3 mois. Dans leur lutte, les travailleurs de Colas ont affirmé que les ennemis des travailleurs, ce sont les patrons et l'État et à leur service, et que le combat des classes, de la classe maorée est comme en rien, donc une seule nationalité, celle des travailleurs. Alors, pour conclure, le patronat, pour régner, a toujours entretenu toutes sortes de divisions au sein de la classe ouvrière. Contrats différents, fiches de paie différentes, cascades de sous-traitance, titres de séjour et droits différents, inégalité salariale entre hommes et femmes, tout cela pour mettre en concurrence les travailleurs entre eux et en tirer le maximum de profit. Eh bien, dans les entreprises, la hiérarchie continue à utiliser le racisme, le mépris, les humiliations pour imposer son pouvoir et l'autorité du patron. Dans ce contexte, la division entre travailleurs, avec ou sans papier, d'origine ou de religion différente, est une des pires. Les défenseurs du système capitaliste, toutes les couleurs politiques confondues, creusent le fossé, pervertissent la conscience des classes populaires de toutes les manières possibles, au moyen des illusions électorales, nationalistes, réformistes et par la désignation des boucs émissaires. Alors il faut au contraire que les idées de la lutte des classes pénètrent dans la classe ouvrière et dans la jeunesse, à qui est promise en plus l'exploitation militarisée en civil ou en uniforme. Alors l'avenir que nous réservent Macron et les politiciens de droite comme de gauche, c'est celui d'un capitalisme de plus en plus dur contre les travailleurs, de plus en plus prédateur, nationaliste et guerrier, exigeant toujours plus de sacrifices du monde du travail. Alors pour changer cela, les travailleurs doivent s'organiser de manière indépendante, en ayant clairement en tête qui sont leurs ennemis, les capitalistes et l'État, incarnés par les préfets, les ministres, les députés et les autres politiciens à leur service. Il nous appartient, à nous militants communistes, internationalistes, avec le modeste force, à notre courant des idées à contre-courant des idées réactionnaires, de lever le drapeau de la lutte de classe, de l'unité de la classe ouvrière, drapeau dont elle s'emparera pour défendre les intérêts de classe, pour détrôner la classe capitaliste et changer le cours de l'histoire. Maintenant, si vous avez des questions, des remarques, des témoignages, ben voilà, le micro est à vous.
Merci pour cet exposé. Moi, je voudrais corroborer le propos, pardon, parce que j'ai vécu 4 ans à Mayotte. Et donc, j'ai vécu la crise de l'eau. C'était au départ des coupures la nuit, puis c'est venu 1 jour sur 2, puis on est arrivé à 12 heures d'eau sur 3 jours. Donc, c'est très compliqué, en sachant que, comme tu l'as dit, dans les bidonvilles, ils n'ont pas accès à l'eau. Donc, c'est une crise qui était très, très forte. Et ce qui est vraiment intéressant de noter là-dedans, c'est que finalement, on a deux options politiques. C'est-à-dire que soit vraiment on est dans la lutte des classes et on comprend le système par rapport au fonctionnement capitaliste, on se dit que cette crise de l'eau, elle ne vient pas d'une unité naturelle ou c'est pas une fatalité. Et donc, comme tu l'as cité, à Mayotte, il y a le groupe SMAE qui est une filiale de Vinci, qui est aussi une boîte de PTT avec SMTTC. Donc, ils ont les moyens de produire cette eau, et ils ne le font pas. Et il faut noter qu'en 2024, Vinci, c'était 2 milliards de dividendes. Donc, je pense qu'il y a un lien à faire entre les deux à chaque fois, effectivement, entre nos conditions d'existence et les dividendes qui partent et tout cet argent qui n'est pas investi justement pour produire cette eau. Et puis la deuxième option qu'il y a et qui justement malheureusement est saisie à Mayotte et un peu partout dans le monde, c'est que faute d'avoir cette logique de classe, on va raisonner autrement, effectivement, à Mayotte, majoritairement, les gens pensent que le problème c'est l'immigration. C'est parce qu'on est trop nombreux. Et donc, comme tu le disais, alors les chiffres, ils sont pas très fiables, ils ne sont pas certains, mais il y a un rapport du Sénat de 2012 qui évoquait la mort de 12 000 personnes en traversée quoi ça, donc des traversées bateaux, entre Anjouan et Mayotte. Donc 12 000 morts. Et c'est très intéressant parce que, du coup, avoir une politique anti-immigration, c'est cruel, mais c'est aussi très bête. Si les gens sont en train de mourir pour traverser, ils ne vont pas s'arrêter. Entre Mayotte et Anjouan, c'est 70 km, et donc c'est totalement une impasse.
Si vous avez d'autres questions, si vous pouvez venir là, ce sera plus confortable.
À Mayotte, comme à La Réunion, la candidate Le Pen a fait 60% au deuxième tour des présidentielles. Pour Mayotte, c'est une progression régulière. Pour La Réunion, c'est une progression fulgurante. Est-ce que vous avez des facteurs d'explication pour expliquer un résultat qui est l'inverse de ce qui est des résultats globaux de la France? Et j'ai bien dit des facteurs d'explication, étant donné quand même qu'on a à Mayotte une situation en termes d'insécurité, il y a un problème. Alors, je ne dis pas personnellement que c'est la faute de l'immigration. Je ne suis pas sur le registre les thématiques du Front National, mais je crois qu'on ne peut pas non plus éviter de poser ce type de questions, de voir la situation en termes d'analyse multifactorielle, parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est quand même essayer de rattraper ces électeurs-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si on va commencer par répondre.
Oui, effectivement, on a vu ces dernières années les scores électoraux de Le Pen grimper. Et justement, c'est ils en font leur fond de commerce, hein, la misère, l'insécurité, soit disant l'insécurité qu'il y a à Mayotte, etc., ils en font leur fond de commerce. Et là-dedans, il y a aussi la responsabilité des partis, des partis de gauche, des gens qui se réclament de la gauche, qui souffrent aussi sur cette braise-là, hein, qui, au lieu de dénoncer les véritables responsables, hein, de la misère, du manque de logement, hein, on va opposer les travailleurs, les pauvres réunionnais ou les pauvres, les Comoriens, en disant, voilà, si tu n'as pas de logement, c'est parce que c'est le Comorien ou le Maori qui te pique ton logement. Si tu n'as pas d'emploi, c'est parce que voilà, c'est le oreille ou le fonctionnaire de métropole qui vient, qui prend les meilleurs postes, etc. Donc voilà, c'est là-dessus qu'ils font le faux commerce. Et nous, justement, ce qu'on a à dire, ce qu'on a à expliquer, c'est que nous, on appelle à la conscience des travailleurs. Hein, on dit, ben voilà, les véritables responsables sont les patrons, ceux qui licencient par centaines, par milliers, hein, ceux qui nous contrôlent, qui s'engraissent. Il faut savoir qu'à La Réunion, comme à Mayotte, tous ces patrons-là, ils sont subventionnés à des puissants fonds, hein, et ils s'en mettent plein les poches. Et ça ne les empêche pas, tout en encaissant le fric, de continuer à licencier. Alors qu'on pourrait, au lieu d'utiliser tout cet argent-là pour engraisser les patrons, on pourrait construire les logements qui manquent, on pourrait construire les écoles, on pourrait, le copain disait tout à l'heure, Mayotte, ça coûte rien, ça coûte pas grand-chose de construire les barrages, etc., pour permettre aux gens d'avoir de l'eau. Non, on préfère désigner les plus pauvres, on préfère désigner l'étranger comme les boucs émissaires. Alors, donc c'est pareil pour l'insécurité. Hein, on essaye de faire un lien entre insécurité et étranger. D'accord, ça se voit à Mayotte, hein, c'est plus criant, mais c'est aussi à La Réunion. Il y a des manifestations contre soi-disant la violence importée, puisqu'on nous a fait croire que bon, là, s'il y a un développement soi-disant de violence à La Réunion, c'est parce que c'est les Maoris qui viennent, les Maoris ou les Comoriens qui viennent répliquer à La Réunion ce qui se passe à Mayotte. C'est complètement faux. S'il y a insécurité, la première insécurité, c'est quand même le chômage, c'est quand même la misère. C'est ça la vraie insécurité. D'accord ? Et ça, c'est la responsabilité des patrons, d'ailleurs, qui licencient, etc. Mais c'est aussi la responsabilité de l'État français qui, pendant des décennies, a maintenu Mayotte, les Comores, dans un état de sous-développement. Si aujourd'hui, il y a la délinquance, s'il y a l'insécurité à Mayotte, etc., c'est d'abord la faute de l'État français.
Je suis rayonné, mais je vis ici. Bon, bref, ça fait longtemps que je n'ai pas été là-bas. J'ai su qu'il y a eu énormément de dégâts avec le chikungunya, que l'État n'a pas joué son rôle. Tu peux dire quelques détails là-dedans. Et aussi, je voulais savoir un peu le fait que, bon, là, on parle d'économie de guerre, le fait que le budget militaire augmente. Est-ce qu'il y a des réactions, des discussions ou d'inquiétudes en plus, c'est aussi une base militaire là-bas dans l'océan Indien. Je peux avoir quelques petits mots là-dessus.
D'autres questions ?
Bon, sur ta réponse, sur le chikungunya, oui, bon, ben, c'est une épidémie. En 2005, l'ARS, dans les autorités, avait mis un temps fou, hein, avant de mettre les moyens pour éradiquer cette épidémie. Cette fois-ci, même si l'épidémie est moindre, c'est un peu la même chose. D'accord, les hôpitaux, ils craquent. Ils manquent du personnel. ils manquent des moyens. Parce qu'ils font, ils ferment des lits. Il y a des infirmiers, des aides-soignants, etc., qui poulent sur la salle du travail. Ils ont des heures supplémentaires, ils n'arrivent même pas d'ailleurs à payer, etc. Donc voilà, il faudrait qu'il y ait des moyens. On peut, on est quand même au 21e siècle, il y a des moyens de lutte, la médecine a fait des progrès, etc. Donc il suffirait que l'État mette les moyens pour qu'on puisse juguler, comme ça a été le cas, pour le Covid. Juguler toutes ces épidémies. Et puis, il y a aussi la lutte contre la maladie elle-même, mais il y a aussi tous les moyens pour lutter contre le vecteur. Le chikungunya est transmis par le moustique, mais depuis des années, il y a de moins en moins de démoustications. Quand il y a des pics comme ça de maladies, d'épidémies, là, ils sortent un peu les attirails, ils vont faire quelques démoustications, alors que c'est un traitement qu'ils voudraient faire à longueur d'année. Et là aussi, il faut des moyens. Il faut des moyens à l'ARS, il faut des moyens aux hôpitaux, etc. Mais qu'est-ce que fait l'État? Ben voilà, au lieu de mettre ces moyens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils restreignent les moyens. Ils ferment des lits, ils diminuent le personnel, ils précarisent l'emploi, etc. Et le fric, qu'est-ce qu'ils en font? Voilà, ils continuent, c'est tout cet argent qui pourrait justement servir à la construction des hôpitaux, à l'embauche des soignants, à l'embauche de le personnel, les moyens techniques, etc. Mais ça va dans la poche des grands patrons. Alors l'économie des guerres, c'est sûr que lorsqu'on parle de la guerre en Ukraine, ça peut paraître lointain, mais ça a quand même un certain écho parmi la population, parce que dès lors qu'on parle de guerre, tout de suite, qu'est-ce qu'on va devenir? L'île, c'est un petit caillou. Par exemple, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, un des effets, ça a été l'augmentation de la bouteille d'huile. Une bouteille d'huile qui coûtait à peine 1 euro, et elle est passée à 3 euros, 4 euros, 5 euros. Donc, déjà, pour dire que ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Ukraine, ça a automatiquement une répercussion sur l'ensemble de la population, sur les travailleurs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Donc on voit bien que nos intérêts sont quand même liés. Et puis, pour parler de cette marche vers la guerre, la même politique, le même embrigadement, le patriotisme, qu'on entend en longueur d'année ici sur les médias, à La Réunion, c'est aussi répercuté aussi bien. Il y a eu, je crois que si je ne me trompe pas, c'est à La Réunion, ça a été un laboratoire pour l'uniforme à l'école. Donc on commence déjà, dès le collège, à faire marcher les jeunes en uniforme. Il y a eu la SNU, le service militaire universel, récemment, je voyais dans une école dans l'Ouest, où il y a même des classes maintenant, ils font des exposés militaires, ils font venir des spécialistes, souvent ce sont des profs qui ont été dans l'armée, etc., qui viennent. Donc ils essayent d'embrigader les gens à cette marche vers la guerre. Mais justement, et s'il n'y a pas justement un parti qui soit capable d'expliquer que cette guerre-là qui se profile, cette marche vers la guerre, ça ne concerne pas, c'est pas la guerre des travailleurs, c'est la guerre de brigandage entre les puissances impérialistes, etc. Ben oui, les gens, ils risquent de laisser pourrir cette conscience par cette politique patriotique et nationaliste qui est aussi développée par les politiciens locaux. Et d'ailleurs, même à un certain niveau, il y a la présidente de la région, par exemple, qui parle de patriotisme réunionnais. Bien sûr, lorsqu'elle parle de patriotisme réunionnais, elle entend par favoriser les patrons locaux. Mais le VABH est là, l'embrigadement est là. Donc oui, nous, ce qu'on dit sur les marchés, des fois les gens disent, ouais, mais oui, mais nous, la guerre, c'est pas notre truc. Mais ce qu'on dit aux jeunes, par exemple, oui, mais ce qui se passe hier, qui aurait dit en Europe, il y aurait une guerre en Ukraine. Donc, on n'est pas à l'abri d'une guerre. Le capitalisme, on le dit suffisamment, il est porteur de guerre. Donc, on marche vers la guerre. Et les travailleurs réunionnais, les jeunes réunionnais, ils ne vont pas y échapper parce que la guerre se déroulerait à des milliers de kilomètres.
passé. Je viens de la Ligue trotskiste, la LTF. Je crois que le problème principal, c'est l'oppression coloniale. On peut regarder partout dans les colonies françaises, que ce soit Kanaky, Mayotte, Martinique, etc., ils sombrent dans la misère et les impérialistes français n'ont que encore plus de misère et de répression à offrir aux colonies. Et le problème, c'est qu'il faut... Oui. Merci. Il faut inscrire les revendications que vous appelez des classes, mais je crois que vous avez une conception très rigide de ce que seraient les revendications des classes. Augmentation des salaires, pouvoir d'achat, etc. Il faut l'inscrire dans une stratégie prolétarienne, anti-impérialiste, indépendante et conséquente, c'est-à-dire l'inscrire dans la lutte pour l'indépendance et le socialisme. C'est ainsi qu'on pourrait réunifier les populations des îles de Comores. C'est ainsi qu'on pourrait combattre l'extrême droite, que ce soit là-bas ou ici dans l'Hexagone. C'est ainsi qu'on pourrait réunifier la classe ouvrière française, en insistant surtout ici, dans l'Hexagone, contre notre propre bourgeoisie, pour l'indépendance de chaque colonie. J'étais hier soir à la présentation d'un camarade à vous, de lutte ouvrière, sur la lutte pour la libération nationale de l'Irlande il y a 100 ans. J'ai trouvé sa présentation excellente. Il a expliqué comment le prolétariat, c'est la seule force capable de pousser la lutte pour la libération nationale jusqu'au bout. Il a expliqué qu'on ne peut pas séparer la lutte des classes et la lutte pour la libération nationale. Au contraire, il faut le fusionner. Alors, ça, c'était Irlande il y a 100 ans, mais Hello, il me semble, refuse de mettre en pratique ces leçons du marxisme révolutionnaire, de l'international communiste, etc. Elle refuse de les mettre en pratique. Aujourd'hui, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, La Réunion, Kanaky, il faut se battre pour l'indépendance et le socialisme comme levier, et la lutte pour la libération nationale comme levier pour la révolution socialiste. Merci.
Bon, ben on remercie le camarade de la Ligue trotskiste pour ses leçons de lutte de classe. Bon, écoute, peut-être que tu n'as pas bien saisi de quoi il s'agit ici, c'est de parler effectivement des conditions d'existence des travailleurs aussi bien à Mayotte qu'à La Réunion et ailleurs d'ailleurs, dans un contexte où la crise du système capitaliste, d'une part, la crise de la représentation politique et des organisations de gauche, d'autre part, laisse le monde du travail complètement démuni, sans boussole politique. Voilà, c'est ça le problème. Alors, si tu ne comprends pas très bien de quoi on parle, c'est dommage pour toi. Mais nous, on réaffirme effectivement que la lutte de classe, elle passe par la lutte pour les revendications ouvrières, elle passe par la lutte contre l'oppression coloniale, là où elle se passe, effectivement, en Kanaky, à La Réunion et à Mayotte. Et que c'est pas les mots qu'on plaque sur les choses qui comptent, c'est le sentiment qui est ressenti par les travailleurs. Le camarade a signalé qu'à Mayotte, parmi les revendications qui peuvent unir les travailleurs travaillés par des sentiments, des préjugés racistes et xénophobes, ce qui peut les réunir, c'est un, les mêmes revendications sur les conditions d'existence, salaire, habitat, enfin, etc., tout ce qu'on veut, et aussi la lutte contre l'oppression de type colonial qui s'impose à tous, qu'ils soient comoriens ou maorais, mais qui s'impose à tous de manière différenciée. Et c'est justement en passant par une lutte avec des militants qui ont cette conscience de classe qu'on peut unifier les choses au lieu de laisser la division entre les travailleurs, qu'on peut montrer comment un travailleur maoré qui se sent, parce qu'il a certaines compétences, mais qu'on le maintient au bas de l'échelle, il se sent discriminé, hein, parce qu'on lui envoie pour occuper un poste qui pourrait occuper quelqu'un de métropole. Comment il ne va pas se sentir maoré avant tout? Il va se sentir comme un travailleur opprimé avant tout. Et c'est ça qui compte, c'est dans la lutte pouvoir montrer que la lutte de classe se situe partout et qu'elle elle doit primer pour les travailleurs. Elle doit passer avant toute conception de couleur, nationalité, drapeau. C'est ça que nous essayons de, effectivement, de mener aujourd'hui comme combat. C'est un combat actuel que lutte ouvrière mène partout. Et entendre dire à notre fête, avec tous les discours qu'on a partout, tous les témoignages de camarades, les expositions, les interventions de nos camarades centralement, Nathalie Arthaud, Jean-Pierre Mercier, s'entendre dire que lutte ouvrière néglige la question coloniale et de l'oppression coloniale, l'entendre dans la bouche de quelqu'un, je me dis, le quelqu'un où il est sourd, où il ne comprend rien.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
Bon, moi, j'ai passé un certain nombre d'années sur Mayotte et je dirais que la première chose qui manque à Mayotte, c'est l'éducation. Parce que, comme disait notre ami, les primaires n'ont cours qu'une demi-journée par semaine. Il y a un manque criant de profs. Et même actuellement, après Chido, il y a certains établissements scolaires qui ne fonctionnent que, par exemple, pour les terminales, deux demi-journées par semaine. Les secondes, c'est une journée. Donc, tant que le système éducatif ne sera pas satisfaisant, tant qu'il y aura un manque criant de profs, Mayotte ne peut pas aller mieux. Mayotte sera toujours à la traîne, parce que les Mahorais n'auront pas les moyens de... pas d'avancer, mais n'auront pas les moyens de... n'auront pas les moyens de... je ne sais pas quel mot il faut utiliser... Il y aura toujours ce manque d'éducation qui freinera l'île vers le bas. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les Comoriens, etc., qui viennent, ne vont dans les classes, non pas par niveau scolaire, mais par âge. Quand il y a des classes, quel que soit l'âge, ils vont. On peut avoir, par exemple, des CM2 qui ont 13 ans, des CE1 qui ont 12 ans, qui sont dans les classes. Donc, effectivement, c'est très difficile d'être... au service de l'éducation là-bas. Voilà ce que je voulais dire.
Oui, ben écoute, Mayotte manque de tout, hein, on l'a dit. Il manque bien sûr des écoles. Et là, il y a justement cette incurie de l'État et le mépris de l'État de laisser tous ces jeunes à l'abandon. Mayotte, c'est quand même un pays, je ne dis pas de bêtises, 45 ou 50 populations, % de la population à moins de 25 ans. Donc il y a beaucoup de jeunes. Et que fait l'État dont il laisse ces jeunes, hein, il laisse ces jeunes à la dérive. Non seulement les jeunes maorais, mais aussi les jeunes comoriens. Hein, parce que non seulement c'est difficile pour les maorais, mais c'est encore plus difficile encore pour les comoriens, et eux, ils sont sans papier. Donc tous ces jeunes-là, après on s'étonne, on parle de délinquance, on parle d'insécurité. Mais si les jeunes, ils avaient les moyens, déjà ils pouvaient atteindre l'école, mais ce ne serait pas dehors, ce serait déjà. Et s'il y avait effectivement les moyens d'accéder à une certaine connaissance, à une formation, etc., ils auraient peut-être un boulot. Mais voilà, donc à La Réunion c'est pareil. Hein, vous avez des classes qui ont 30 élèves, 25-30 élèves. Comment voulez-vous que les jeunes ils apprennent quelque chose? Et bien souvent d'ailleurs, ben, ceux qui sont en les plus difficultés sont ceux qui déjà ont des difficultés avec la langue française. Hein. On voit à La Réunion, ben, ceux qui sont assez souvent les plus en échec scolaire, ben, ce sont ceux, les enfants, les Maoris, etc. Oui, ben là il faut des moyens. Hein, ce n'est pas un problème de système d'éducation, c'est d'abord un problème de moyens et l'État n'a rien à foutre, excusez-moi l'expression, hein, de ce que peuvent devenir ces enfants, tous ces jeunes-là qui peuvent, ils peuvent. Voilà. Donc,
Et juste pour prolonger le propos concernant les élèves et notamment les Comoriens qui sont à Mayotte. Donc la France a une obligation de scolariser tous les élèves de 3 à 16 ans. Ils le font sous couvert d'un pseudo-humanisme Ça fait comme le camarade l'a dit tout à l'heure, le visa est territorialisé. Donc tu ne peux pas partir ailleurs. Et même les très bons élèves comoriens à Mayotte, ils ont un putain de plafond vert qui ne leur permet pas de poursuivre leurs études ailleurs. Donc l'université, elle est vraiment réduite, il n'y a pas de formation là-bas, il n'y a pas de boulot. Et donc on leur fait murater des valeurs françaises, la République, l'école, le mérite, etc. Sauf qu'une fois qu'ils ont 16 ans, ils voudraient continuer. Je parle là des bons élèves, admettons. On leur met un plafond vert, on les laisse là, on les laisse croupir à Mayotte. Donc c'est bien une preuve quand même du mépris de la politique française dans ce territoire.
Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions ?
Moi, c'est juste une petite anecdote que j'ai appris il y a deux jours, donc je partage. C'est un exemple de comment on traite les colonies françaises, j'imagine. Mais du coup, il y a l'ARS à Mayotte qui a eu l'autorisation, l'Agence régionale de santé, qui a eu l'autorisation d'utiliser des drones pour survoler des zones et pour voir quels étaient les besoins en termes de santé. On reste sur la santé. Et à partager ensuite ces informations avec les flics pour qu'ils interviennent ensuite sur les zones, sur les bidonvilles, etc., ce qui est totalement impossible, enfin interdit. Voilà, et c'est passé, on n'en a jamais entendu parler. Voilà, c'est même pas du tout connu. Donc c'est ce genre de... Voilà, comment on traite les gens.
Ils sont capables d'utiliser des drones pour, voilà, pour surveiller les problèmes, mais est-ce qu'il y a les moyens derrière ils ont moyens, les statistiques, ils savent faire, les données, ils les ont, mais est-ce qu'ils mettent les moyens? Depuis le passage du cyclone, il n'y a rien. L'État français, il parle de ça fait des années qu'il dit qu'il faut construire un autre hôpital à Mayotte ou agrandir celui qui existe. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne le font pas. Donc, bien sûr, donc c'est ça le problème. Et je dirais concernant ce que je dis, partage des données, on peut faire confiance à l'État. Hein. On peut faire confiance à l'État quand il s'agit d'aller mater les travailleurs, quand il s'agit de réprimer. Alors là, ils sont bons, hein, ils ont tous les moyens, ils peuvent tout faire. Deux minutes, bon, ce que je disais, hein, c'est que le racisme, la xénophobie, c'est un poison. C'est un poison qui pollue la conscience des travailleurs. Et bien entendu, on ne va pas faire confiance aux politiciens ou quoi que ce soit, même de gauche, pour aller essayer d'éclairer la conscience des travailleurs. Donc, ce combat contre ces idées qui pourrissent la vie des travailleurs au jour le jour ne peuvent venir que des travailleurs eux-mêmes. Hein. Je n'avais pas développé, mais j'ai cité à La Réunion une entreprise Chrome, c'est une entreprise du bâtiment où les travailleurs se sont mis en grève. Mais il se trouve que dans cette entreprise, les travailleurs qui étaient en grève, mais il y avait des Réunionnais, il y avait des Malgaches, il y avait des Mauriciens, etc. Donc quand les travailleurs se battent, ben, ils sont capables de gommer toutes ces idées, tous ces préjugés-là, parce qu'ils savent, eux, hein, qui sont leurs véritables ennemis, ce sont les travailleurs. Et bien entendu, les travailleurs eux-mêmes. Comment ? Oui, les patrons, pardon, c'est un lapsus. Que sont les patrons? Et je dirais que non seulement les travailleurs, ils peuvent trouver en eux-mêmes des ressources, mais il faut aussi et surtout un parti. S'il n'y a pas un parti pour aller combattre dans les quartiers, dans les écoles, dans les entreprises, toutes ces idées pourries, personne ne le fera. Donc il faut un parti des travailleurs, un parti qui lève le drapeau de l'internationalisme, un parti communiste.
Bon, dans quelques instants, un nouveau débat va commencer.